France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Est-il un dandy? Peut-être. Mais de qui parle-t-on? D'Arsène ou de Maurice? De Lupin ou de Leblanc? De toute façon, comment identifier à coup sûr l'homme qui, en plus de tous ses talents bien connus de gentleman et de cambrioleur, possède celui, très pratique, de changer d'apparence et d'identité presque à la seconde? Arsène Lupin. Arsène Lupin et ses communiqués moqueurs à la presse. Arsène Lupin qui ne vole que les riches, qui protège la veuve et l'orphelin. Enfin, si la veuve n'est pas trop riche. Un petit collier dérobé pour se rembourser des frais engagés, ça ne mange pas de pain. Arsène Lupin en son temps et Arsène Lupin de tous les temps. Arsène Lupin à la fin du siècle dernier, le 20e, et ses échos dans la société. Pas vraiment des émules, mais des braqueurs qui ne faisaient pas couler le sang. Lieu de mémoire, première diffusion sur France Culture le 29 juillet 1999.
Lieu de mémoire. Arsène Lupin, Jean-Marc Fombonne, Brigitte Bouvier.
Ce qui est le plus remarquable dans les aventures d'Arsène Lupin, pour moi, c'est que Maurice Leblanc réussit à écrire des aventures dans lesquelles l'histoire et la géographie ne sont pas là comme simples éléments de décor pour faire bien, mais font partie intégrante du récit. C'est évident avec l'Aiguille Creuse, par exemple. On n'imagine pas que l'Aiguille Creuse se passe ailleurs qu'Étretat. De même, vous connaissez l'excellent roman La Comtesse de Cagliostro, dans lequel Maurice Leblanc a remarqué que si on tirait un trait reliant chacune des abbayes du pays de Caux, on aboutissait au dessin de la Grande Ourse. Et la résolution de l'énigme vient de ce que Lupin découvre cela. Et là encore, donc c'est les abbayes du pays de Caux qui en effet reliaient entre elles des signes de dessin de la Grande Ourse, et cette aventure, on ne peut pas la situer ailleurs. C'est vrai aussi dans La Bariva. Dans ce roman La Bariva, la solution de l'énigme repose sur le phénomène de la barre, qu'on appelait aussi mascarée. Ce phénomène qui faisait qu'au marais d'équinoxe, il y avait une grande vague qui remontait la Seine. Là aussi, on ne peut pas situer ça ailleurs. C'est pourquoi Maurice Leblanc me semble beaucoup plus lié au pays de Caux que Maupassant, par exemple. On assimile souvent au pays de Caux, parce qu'à mon avis, Maupassant, dans les contes qui se situent dans le pays de Caux, si on remplace Yport par Plouvalec, ça peut se passer en Bretagne. Alors que dans les plus réussies des aventures d'Arsène Lupin, à celles que j'ai citées, on pourrait ajouter l'île aux 30 cercueils en Bretagne, ou encore la demoiselle aux yeux verts qui se passe en Auvergne, dans les plus réussies de ces aventures, Maurice Leblanc utilise l'histoire et la géographie pour nous faire entrer dans le domaine de la légende.
Jacques Derouard.
On évoquait, quand on était au Clos Lupin, quelques-unes des idées fausses qui circulent autour d'Arsène Lupin dans le grand public, et vous m'en rappeliez quelques-unes.
Oui, alors ces idées fausses, je pense qu'elles sont nées très tôt avec la pièce de théâtre qui avait été tirée par Francis de Croisset de l'œuvre de Maurice Leblanc. Et cette pièce de théâtre a eu un très grand succès, et comme ce qui est visuel s'ancre mieux dans l'esprit des gens que ce qui est écrit, les Parisiens, puis le monde entier, parce que la pièce de théâtre a eu un grand succès, ont vu en fait Arsène Lupin tel que le jouait André Brûlé, qui était un acteur alors très célèbre. Et on se représente depuis Arsène Lupin avec une cape, un chapeau haut de forme, une canne à pommeau, tous éléments qui ne figurent pas du tout dans les aventures d'Arsène Lupin telles que Maurice Leblanc les a écrites. Et puis ensuite, il y a eu surtout les feuilletons télévisés qui ont eu beaucoup de succès et qui ont imposé une certaine image d'Arsène Lupin qui n'a rien à voir avec le vrai Arsène Lupin. Par exemple, on se le représente en train de danser avec une jolie femme, jamais il en est question dans les aventures d'Arsène Lupin. On se le représente débouchant des bouteilles de champagne à toutes les occasions, alors que je ne pense pas qu'une seule fois Maurice Leblanc fasse référence au champagne dans les aventures d'Arsène Lupin. On se le représente surtout comme un séducteur qui ne connaît que les succès, alors que dans les aventures d'Arsène Lupin, il ne connaît que les échecs. À la fin de Des Nuits Creuses, Raymond, avec qui il allait enfin pouvoir connaître le vrai bonheur, meurt dans ses bras. Enfin, Arsène Lupin n'est pas quelqu'un qui soit vraiment heureux en amour, sauf dans La Comtesse de Cagliostro, et encore, ça dure très peu de temps. Elle l'aime, oui, mais toujours de manière assez ambiguë. Florence Levasseur dans Les Dents du Tigre, par exemple. Maurice Leblanc ne sait jamais s'il a affaire à quelqu'un qui l'aime ou qui, au contraire, est un monstre odieux. Dans 813, la femme qu'il pourrait aimer est carrément un monstre. Dans La Comtesse de Cagliostro, Clarisse Détig l'aime beaucoup, mais Lupin n'y fait pas très attention, elle la laisse fort malheureuse. Hein. Le mariage d'Arsène Lupin, c'est encore pire, puisqu'il séduit cette malheureuse Angélique de Sarzeau-Vendôme, qui n'est pas très belle, et qui finalement se réfugie ensuite dans un couvent. Donc comme histoire d'amour, c'est pas...
Il vit toujours en marge de la société et en opposition avec les lois. Mais ces lois, il ne les transgresse que pour servir la société. C'est aussi un patriote. Il sert son pays à sa manière et avec tant de magnificence que son pays, qui devrait le coffrer, est contraint de le remercier. Au fond, il est chauvin, cocardier, épris de gloire et de panache, réactionnaire en diable, bref, un bourgeois, capitaliste et bien-pensant. Jusqu'en amour, il professe les sentiments les plus retardataires. Toujours amoureux, il l'est toujours pour le bon motif. Chaque fois, il lui faut l'assistance de monsieur le maire et de monsieur le curé. Autant que je sache, il est bigame, sinon trigame, ce qui est un hommage à la sainte institution du mariage.
Alexandre Jacob, dont on peut penser ou non qu'il a inspiré le personnage d'Arsène Lupin, a été tour à tour pirate, libertaire, fondeur d'or, gentleman cambrioleur et justicier. Né en 1879, mort en 1954, il a à son actif des centaines de cambriolages uniquement destinés à financer la cause anarchiste, ce qui lui a valu 25 ans de bagne et inspiré 17 tentatives d'évasion. Bernard Thomas.
Le jeune Maurice Leblanc, qui était un romancier psychologique, qui avait publié quelques livres qui n'avaient pas fonctionné, il se faisait les dents, hein, se retrouve journaliste au journal Gil Blas. Et donc en 1905, au printemps 1905, et assiste au procès Jacob. Alors, c'est un procès retentissant quand même. Jacob vient au bout de 150 cambriolages déclaré, c'est-à-dire qu'il y en a sûrement 500. Il y a une bande de 40 bons hommes dans le box et femmes dans le box des accusés. Parmi ces gens, il y a sa maman, qui est une sorte de Madalton pacifique, mais qui est totalement de son côté, qui tient les comptes de la compagnie. C'est-à-dire qu'on ne garde rien pour soi, et tous ceux de la bande qui volent le vol, en quelque sorte, sont renvoyés immédiatement et engueulés par la maman. Et alors, en plus, il faut bien voir que Jacob n'est pas un accusé comme les autres, c'est quelqu'un qui inverse les rôles et qui fait le procès du procès qu'on lui fait. Le procureur lui dit, mais enfin, vous êtes un criminel, et il répond du tac au tac, mais beaucoup moins que vous, monsieur le procureur. Vous avez les mains rouges comme votre toge, comme votre robe, alors que moi je n'ai jamais versé le sang. Le président lui dit, quels sont les jurés que vous allez récuser? Il dit, mais je les récuse tous, ils sont là pour me juger. Il faut dire qu'à l'époque, les jurés étaient choisis en fonction d'une sorte de suffrage censitaire, c'était uniquement parmi les bourgeois. Donc, il dit, mais alors, comment est-ce que vous faisiez pour aller cambrioler? Ben, c'est très simple, répond Jacob. D'abord, je ne suis pas cambrioleur, je suis un récupérateur. Je ne vole pas, je vole des voleurs. Et quand j'arrive dans un pays où je vois des usines et des cheminées, oh ben je sais que là, il y a des braves gens qui sont en train de travailler. Par contre, lorsque dans le bottin mondain, je découvre qu'il y a des châteaux, là, je commence à m'intéresser aux choses. Mais il y a des gens, voilà. Et lorsque je peux lire dans le bottin mondain qu'il y a monsieur le marquis de, etc., qui a trois châteaux, je me dis, ben, il y en a quand même deux de trop. Il peut pas être dans les trois en même temps. Donc là, je me dis qu'on peut rétablir la justice en allant récupérer dans les châteaux. Alors, ce procès était absolument fulgurant parce que Jacob était un homme d'esprit, de répartie, avec l'accent du midi en plus chantant, et tout le monde se tordait de rire aux répliques. Ce qui fait qu'il est évident que le jeune Maurice Leblanc a été frappé par ça. Et on peut pas éviter de faire le rapprochement avec l'apparition de la première livraison, comme on disait à l'époque, d'Arsène Lupin, qui s'appelait Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, dans Je sais tout, qui a lieu 3 mois plus tard, qui a lieu en juin. Donc, j'ai tendance à dire que entre les deux, il y a quand même quelque chose de frappant.
Oh, le bon vieux temps, nos aïeux souvent arrêtaient les diligences. Oui, mais à présent, quel perfectionnement, on est devenu plus régence. Le triomphateur, c'est le cambrioleur, avec sa patte, monseigneur, qui vous fait sauter les verrous de sûreté, et qui tranquillement, sans le moindre boucan, fait son petit déménagement. Nous ne sommes pas des voleurs, vraiment c'est trop bête, bête. Nous sommes cambrioleurs, ça c'est bien plus chouette. C'est nous qui fracturons et qui dévalisons les petites maisons chaque saison. Et quand on est amateur, vraiment c'est beaucoup d'honneur d'avoir comme visiteur les bons cambrioleurs.
J'ai lu certains textes qui affirmaient que Maurice Leblanc était présent au procès d'Alexandre Jacob comme journaliste pour le Gil Blas, ce qui est tout à fait faux. Donc on a écrit des choses qui sont inexactes. Et il n'y a aucune raison de penser que Maurice Leblanc se soit inspiré d'Alexandre Jacob plus que de n'importe qui d'autre. Ce qui est vrai, c'est que le thème dont il traite dans les premières aventures d'Arsène Lupin, c'est-à-dire le thème du cambriolage, c'était un thème qui était très à la mode au début du XXe siècle. Le cambriolage était un phénomène nouveau. D'ailleurs, le mot cambriolage n'apparaît dans la littérature qu'au début du XXe siècle. C'est un mot nouveau. Et alors, je pense que c'est parce que ça correspond à une nouvelle forme de délinquance à l'époque. Disons que j'imagine qu'avant, la délinquance, ça consistait à se mettre à un coin de bois et puis d'attendre que des gens passent pour leur retirer l'argent. Donc, le cambriolage est sûrement un phénomène nouveau au début du XXe siècle. Qui s'explique comment, je n'en sais rien, par peut-être la multiplication des résidences secondaires, qu'il y avait moins de domestiques pour rester dans les maisons inoccupées, je ne sais pas. Enfin, c'est un fait. Et c'est un fait que, dans les journaux et dans les revues du début du siècle, on voit beaucoup d'articles sur les cambriolages qui semblent préoccuper les gens. Et ce qui est amusant, c'est que le mois même où Arsène Lupin vit sa première aventure dans Je sais tout, c'est-à-dire en juillet 1905, la revue concurrente, Lecture pour tous, publie un article consacré, c'est le titre de l'article, au cambrioleur dernier cri, et qui dit « Nous avons maintenant le cambrioleur qui opère en gants blancs et en redingote, ces cambrioleurs qui se font passer pour des hommes du monde pour mieux tromper leurs victimes. » Et avant d'écrire les aventures d'Arsène Lupin, Maurice Leblanc a notamment travaillé pour le journal Loto, l'ancêtre de l'équipe, et il a écrit au bien 200 comptes pour le journal Loto. Ce sont des comptes sportifs, comme on disait, beaucoup mettent en scène la bicyclette ou l'automobile, mais beaucoup mettent en scène aussi des cambrioleurs qui ont des automobiles pour échapper rapidement aux agents qui, eux, allaient encore à bicyclette à l'époque. Donc le cambriolage est un fait nouveau. Alors, Alexandre Jacob fait partie des cambrioleurs qui ont été arrêtés à l'époque, qui ont été jugés. Alors c'est vrai qu'il y a un peu coïncidence de date, puisque c'est en 1905 que Marius Jacob a été arrêté, mais rien n'indique que ce soit à lui, plutôt qu'à un autre, qui ait pu songer Maurice Leblanc. En fait, il a pu songer à un tas de choses.
Sauf que, comme Arsène Lupin, il déposait sa carte de visite.
Oui.
Ce qui devait quand même être assez inhabituel, même à l'époque.
Oui. Mais déposer la carte de visite, là aussi, est-ce que ça ne fait pas partie des idées reçues sur Arsène Lupin ? Est-ce que vraiment, vous pouvez me citer une phrase où Maurice Leblanc le montre déposant une carte de visite, oui ?
Oui. Dans l'arrestation d'Arsène Lupin, par exemple, page 3, Lupin laisse sa carte ornée de cette formule. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques.
J'ai tout de même sauvé mon Michel-Ange, la perle de ma collection. Qu'est-ce que c'est que ça ? Arsène Lupin. Mais je me demande pourquoi il a laissé celui-là.
c'est un expert.
Alexandre Sergueï Bogouslavski, sorte de Lupin moderne.
Écoutez, moi j'ai connu qu'un vrai malfaiteur. J'ai approché beaucoup de voyous, dehors et dans les prisons, n'est-ce pas ? Mais de vrais malfaiteurs, j'en ai connu qu'un. C'était un châtelain français qui avait une grosse fortune et qui faisait les coffres-forts. Vous savez, tous les voyous, c'est des pauvres types. Même s'ils font des gros coups, ils le font par nécessité. Le vrai malfaiteur, c'est celui qui commet un délit pour le plaisir, parce qu'il aime ça. Hein ? Il avait dans son château, d'ailleurs, une collection fantastique de coffres-forts. Chaque fois qu'il y avait un nouveau coffre-fort, moi je vous parle des années 30, hein. Chaque fois qu'il y avait un nouveau coffre-fort, il l'achetait. Et puis il le démontait, puis après, quand il se trouvait devant. Hein. Et alors, je lui ai demandé un jour pourquoi il faisait ça. Il m'a dit, moi j'aime ça. C'est encore mieux que d'ouvrir une jeune fille, il m'a dit. Alors ça, c'est un vrai malfaiteur.
Nous sommes partis par une nuit plutôt nocturne. Nous quatre dudules, le grand Victor et l'amnésique. Nous avions collé des semelles crêpes à nos cothurnes. Il y avait les outils, la pince monseigneur, chalumeau oxydrique. J'étais rencardé sur un boulon plutôt pépère. 3 kilos de diam, de la perlouse et puis du jonc. C'est pas si souvent que l'on dégote une bonne affaire. Ce soir, entre tous, fallait pas faire les cornichons. Attention, garez-vous, ce soir on les attaque. Les bourgeois, les salauds, va bien falloir qu'ils raquent. On n'est pas sur le tas pour jouer de la figurine. On va prendre un gros coffre et lui percer le bide. On perce.
Est-ce que vous considérez-vous qu'Arsène Lupin est un dandy ?
D'une certaine façon, oui. Il est un dandy dans la tradition des dandys du 19e siècle. Maurice Leblanc lui-même était dandy. Et le dandysme de Maurice Leblanc se manifeste dans beaucoup d'écrits qu'il a consacrés à la bicyclette. Parce que pour lui, faire de la bicyclette, c'était affirmer sa supériorité sur les autres, sur le commun des mortels. Il a écrit quelque part à l'époque, les convois d'omnibus révoltent les délicats en mal d'indépendance. Ces délicats en mal d'indépendance, c'était bien les dandys, ceux qui prétendaient finalement montrer qu'ils étaient au-dessus des autres. Alors c'est très curieux parce que le dandysme de ces années 1890, ce dandysme, il consiste à la fois à se voir par certains côtés supérieur aux autres, mais aussi à se placer politiquement plutôt de gauche. Et d'une certaine façon, c'est vrai que Lupin affirme sa supériorité sur les autres. Parce qu'il est indépendant, il y a chez lui un certain mépris pour la foule. Et puis par certains côtés, c'est aussi un héros romantique. C'est les origines très modestes que lui donne Maurice Leblanc, et par le fait qu'il nargue la société, en fait.
Tu lui donnes rendez-vous hier soir à 7h, et sous le contrôle d'un de mes hommes, tu prépares un joli petit alibi. Tu te glisses dehors et tu rejoins Arnoux dans les bureaux déserts, et là tu l'abats. Tu mets dans sa poche la lettre accusatrice tapée par toi, tu places sur la table une confession dont tu imites la signature, et tu files. Ça, c'est de joli travail, hein.
Joli roman, monsieur l'inspecteur Béchou. Mais j'en connais un autre aussi amusant. Une belle histoire que sont en train d'imprimer les journaux du soir et qui fera bien rire le public aux dépens de la police.
Laquelle ?
Vous cherchez en Amérique un bandit, cependant qu'il se moque de vous en se faisant passer ici pour détective. Regardez-le sans son maquillage. Faites revenir de sa retraite l'inspecteur Ganimard. Et vous verrez s'il hésite à reconnaître son vieil ennemi, Arsène Lupin.
Oh, c'est mesquin ce que tu fais là, Gazir.
Au début du siècle, beaucoup de journalistes ont rendu la littérature populaire de l'époque, qui était représentée surtout par Nick Carter ou par Arsène Lupin, ou par Raffch, qui fut célèbre en son temps, ou par Sherlock Holmes. Les journalistes du début du siècle ont souvent rendu ces œuvres-là, qui étaient très très populaires et largement diffusées par le cinéma, ont rendu ces œuvres-là responsables de la délinquance. Et c'est vrai que dans ses carnets, Henri de Monterland écrit que lorsqu'il était enfant, vers 1912, sous l'influence d'Arsène Lupin, il s'était mis à voler dans les magasins Et il avait un carnet dans lequel il rendait compte de tous ses vols commis méthodiquement par admiration pour Arsène Lupin. Alors, on a vu, c'est vrai, des délinquants se réclamer d'Arsène Lupin. C'était le cas dans les années 20 d'un certain Serge de Lens, ou je ne sais pas comment on prononce son nom, ça s'écrivait L-E-N-Z, et qui prenait des manières un peu d'Arsène Lupin. Lorsque son procès a eu lieu, les journaux ont volontiers titré un Arsène Lupin moderne. Et comme on voit d'ailleurs très fréquemment aujourd'hui encore dans les faits divers, référence à Arsène Lupin pour parler d'un cambrioleur, pourvu que ce cambrioleur soit un peu facétieux.
Alors, madame, on vous a cambriolé et on ne vous a rien pris.
Oui, oui.
Ah, c'est gentil, ça.
Venez voir. Si je n'avais pas vu ce meuble renversé, j'aurais pu croire que j'avais rêvé.
Mais vous n'avez touché à rien.
Oh, rien?
Bien. Ah, un coffre secret.
En effet.
N'est-ce pas? Vous avez vérifié, madame?
Oui, oui, oui. Voulez-vous que je l'ouvre?
C'est inutile.
Attendez, je vais vous dire le mot.
Pour quoi faire?
Pour l'ouvrir.
Pour l'ouvrir? Le coffre est médiocre, il s'ouvre à l'oreille.
Toujours ouais. Blafeur.
Toujours.
Vous voyez, tout y est. Mes papiers, mes bijoux, mon collier.
Mais c'est le fameux collier d'Olga Vauban. Oh, fiche-toi.
La carrière, elle est compliquée. Hein.
Oui, bah oui, elle est compliquée. Vous commencez par décimer les poulaillers.
Quand j'étais môme, oui.
Et vous finissez orfèvre et faussaire. Expliquez-moi un peu.
Oh non, pas, j'ai pas fini faussaire. J'ai été faussaire dans ma jeunesse. J'ai fini comme orfèvre et sculpteur de pierres précieuses à partir du moment où je me suis installé en Suisse, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans.
Mais comment vous êtes devenu faussaire à un moment?
Écoutez, j'étais très fâché avec la société. Alors j'ai voulu me foutre d'elle.
Oui, mais encore faut-il apprendre à le faire.
Ah ben, je suis né graveur. Pour faire un bon graveur, il faut 4 ou 5 ans de métier. Moi, j'étais graveur en 3 semaines. Je ne voudrais pas faire des comparaisons déplacées, mais j'ai gravé comme Mozart faisait de la musique.
Combien de fausses monnaies vous faites différentes?
Ça, j'en parle pas. J'en ai fait, voilà. J'en ai fait pour moi, j'en ai fait pour d'autres. Même pour des gouvernements, si vous voulez savoir, parce que ça se fait aussi. On ne le dit pas, mais ça se fait.
Est-ce que ça vous a rapporté beaucoup d'argent?
Oui, assez. Pas trop, suffisamment. L'argent ne m'a jamais intéressé.
Donc c'était
c'est très agréable d'en avoir, mais accumuler du fric, je trouve ça répugnant.
Vous avez aussi volé un bateau en 1939 au Louvre, l'indifférent.
Oui, c'est exact, oui. En fait, c'était un contrat pour faire foutre le pervers qui était directeur des musées nationaux à la porte, n'est-ce pas? Moi, j'ai tenu mon contrat, les gens qui me l'ont fait faire ne l'ont pas tenu.
Mais vous l'avez rendu, le tableau?
Bien sûr que je l'ai rapporté, le tableau. Les flics ont cavalé pendant 2 mois. Il y avait quand même certainement au moins une dizaine de personnes qui étaient au courant. Et à un moment, la République française, si je me souviens bien, elle a offert 200 000 francs. C'est beaucoup d'argent, on gagnait 1 000 francs par mois. Hein. Elle va faire 200 000 francs de récompense à qui donnera une indication pour retrouver le tableau. Hein. Et j'ai vu le moment où j'allais être vendu. Et à ce moment-là, il n'y avait qu'un moyen, j'ai rapporté le tableau au juge d'instruction qui était chargé de l'affaire.
Vous l'avez volé comment, ce tableau?
Un dimanche après-midi devant tout le monde. À ce moment-là, le système de sécurité, c'était un petit fil de fer, vous savez, qui était enroulé autour des clous. Hein. Et alors, un dimanche après-midi, je savais que pour ne pas être vu, hein, il ne faut pas se cacher. Hein. Regarde, devant tout le monde, un dimanche après-midi, hein, j'ai soulevé le tableau, j'ai défait mon fil de fer. Il y a même un gardien qui est venu près de moi qui m'a dit « Vous travaillez le dimanche ?» J'ai fait « Hélas, oui !» Il m'a pris pour un type. Il a dû avoir de l'avancement, le type. Puis j'ai mis le tableau sous le bras, puis je suis parti.
C'est du Lupin, ça. Laurence Brice,
son mari Patrick est en prison pour le braquage sans violence de 23 banques. Comme les héroïnes lupiniennes, elle a été par amour capable de tout.
Vous ne saviez pas que l'homme avec lequel vous viviez attaquait des banques?
On a partagé donc 4 ans d'une première étape ensemble. Je ne connaissais absolument pas ce qu'il faisait. Il me disait travailler pour une chaîne de montage de lignes de tension. Et bon, rien d'apparent ne laissait penser le contraire. Parce qu'il ne montrait rien. Il y avait tout semblait couler de source. Il partait une journée, deux journées, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et rien ne laissait supposer qu'il attaquait les banques.
Quand même, en très peu de temps, presque 30 banques, un peu plus de 3 millions de francs. Et cet argent, il était où alors? Il en faisait quoi?
Bon, on l'a dépensé, certainement, c'est vrai. En bougeant un petit peu, c'est vrai, parce que on a pas mal bougé. On a aussi créé un petit magasin. Donc, il a fallu investir un petit peu. Donc, cet argent servait aussi à ça. Donc, Patrick avait l'intention de s'implanter, de vivre normalement. Rien d'exceptionnel ne transparaissait.
En ce qui concerne les vols, les récupérations, disons, la première de Jacob, c'est du Arsène Lupin avant la lettre. Il s'agit d'aller récupérer chez un usurier marseillais, un gars qui gageait en second les pauvres objets que les gens pauvres avaient donnés. Alors vous aviez une montre à 10 balles, le gars vous en donnait 3 francs, et puis ensuite la vendait, et il y avait plein de trucs comme ça. Bon. Et Jacob, à 20 ans, avec 2 copains, s'est déguisé en commissaire de police en se mettant des fausses moustaches, en se fabriquant des faux papiers, et puis en se mettant des écharpes tricolores qui étaient les brassards de première communion qu'ils avaient, teinte en bleu, blanc, rouge, avec les 3 potes. Puis ils sont arrivés chez le gars, ils lui ont dit: mandat de perquisition, vous êtes le receleur d'une montre que vous possédez à la suite d'un quadruple assassinat, ouvrez vos coffres. Et le type a eu tellement peur, parce que c'était vrai ce que les autres racontaient, qu'il a ouvert les coffres. Et Jacob et ses copains ont passé l'après-midi à noter bien soigneusement tout ce qu'il y avait dans les coffres, puis à mettre ce qu'il y avait dans des sacs. Et puis, le soir tombant, ils auraient pu simplement partir avec le sac, mais ils étaient tellement scandalisés par la conduite du gars que Jacob a sorti des menottes de sa poche, a mis les menottes à l'usurier, et puis est monté dans un fiacre et l'a emmené au palais de justice de Marseille. Et là, il a accroché les menottes à un banc dans la salle d'attente du procureur de la République, et le gars s'est retrouvé là, abandonné, et vers 11h du soir, un balayeur est passé: qu'est-ce que vous faites là? Ben, j'attends le procureur de la République. Enfin, c'est monsieur le commissaire. Commissaire, ah bon, on connaît pas ce commissaire-là. Et alors, on a réveillé le juge d'instruction de service, qui a dit: ben, foutez-le au trou, hein, on n'a pas que ça à faire, restons-là. Voilà. Si c'est pas du Arsène Lupin, hein, on peut se demander quand même ce qu'il y en est. Alors, il y a des anecdotes comme ça. Il y en a quand même plusieurs. Il y a le jour où Jacob arrive à Rochefort, dans une belle demeure, la maison d'un officier de marine très riche, qui s'appelle Julien Viaud. Il faut bien préciser qu'il ne s'en prend qu'à des catégories très particulières de citoyens, qui sont les militaires de haut rang, dont les marins, bon, le clergé de haut grade, et les magistrats. Ce qu'il a appris dans Victor Hugo, qui les appelle les parasites de la société. C'est dans 93, c'est pas lui qui l'a inventé, hein, c'est bon. Alors donc, il arrive chez Julien Viaud, et puis alors il met tout dans une charrette, il y a des meubles précieux, il y a des bijoux, il force le coffre, etc. Puis à un certain moment, il découvre qu'il y a beaucoup de livres également dans la maison. Alors il regarde un peu perplexe, et puis il n'y a aucun doute, un certain nombre de correspondances, de dédicaces, d'envois lui permettent de découvrir que Julien Viaud porte un autre nom, il s'appelle Pierre Loti. Alors il redépose tout ce qu'il a volé, remet en place bien soigneusement, puis il avait des cartes de visite qui étaient signées Attila. C'était gravé, alors Attila s'excuse pour le désordre qu'il a commis chez vous. Pour rien au monde, je ne volerai quelqu'un qui vide sa plume, s'y joint 5 francs pour les désordres que j'ai pu causer pour la femme de ménage. Voilà. Là, le personnage. Un autre jour, chez une marquise Il a forcé le coffre. Ça lui a demandé un travail de chien parce qu'il était un beau coffre à l'ancienne. Et puis, il pensait trouver des trésors là-dedans. Et il trouve des lettres d'amour absolument déchirantes, horribles. Il découvre que cette femme était horriblement malheureuse. Et il est allé chercher 3 lingots d'or qu'il a mis dans le coffre. Et puis, il est parti en disant, « Madame, tâchez d'aller mieux !»
Votre mari apparaît, du témoignage même des policiers d'ailleurs, comme un personnage lupinesque. Il envoyait du champagne aux policiers qu'il recherchait, il envoyait des fleurs à la caissière de la banque qu'il avait. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de cette espèce de côté comme ça, de bandit romanesque de votre mari ?
Patrick, bon, il a dans sa nature d'être généreux, d'être courtois. C'est une nature, c'est pas une fabrication de personnage par rapport à ses actes. J'ai su qu'il avait envoyé des fleurs à une banquière. J'ai su que, bon, par rapport aux gendarmes qui l'ont arrêté, il y a quelque chose qui passait parce qu'il a un certain respect, une certaine admiration pour des gens qui savent faire leur travail, tout simplement.
Mais est-ce que vous avez une idée de ce qui, au départ, l'a poussé à commettre ce que la société considère comme des délits ?
Je sais qu'il avait, avant de me connaître, bien sûr, commis des petits larcins, des petits vols, des chéquiers, etc. Mais la première vraie arrestation, c'était un hold-up qu'il n'avait pas commis, et pour lequel, d'ailleurs, il a été acquitté 10 ans après. Il s'est évadé. Donc, là, sa véritable histoire commence là. Et finalement, bon, il s'est retrouvé en cavale. Et le seul moyen de subsister, c'était évidemment de voler. Et il s'est dit, ma foi, puisqu'on m'accuse d'avoir braqué des banques, alors je vais le faire.
Mademoiselle, pourquoi vous surveillez-vous comme ça ?
Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ?
Mais je ne vous ai pas donné votre pourboire. Pourquoi vous surveillez-vous ? Vous aviez peur ?
Moins que vous.
J'avais peur, moi ?
Plus maintenant. C'est tout à l'heure que vous aviez peur.
Mais pourquoi, grand Dieu ?
Parce que c'est vous, Arsène Lupin.
J'ai fait moi-même mon apprentissage en faisant des lettres, graveur de lettres. Alors, graveur de lettres, c'est con comme la lune. Hein ? Vous savez, des cartes de visite ou des trucs comme ça. Mais le charme de la lettre gravée, c'est qu'on peut équilibrer les choses. Chose qu'on ne peut pas faire en imprimerie. Par exemple, si vous avez un R, vous voyez la forme d'un R, et puis un A à côté, ça fait un grand vide entre. Le graveur, il peut jouer pour que le vide soit élégant. C'est un boulot de singe, finalement, un bon graveur de lettres. Mais ça vous donne un œil fantastique, et un bon graveur de lettres, après, il peut faire n'importe quoi.
Au lieu de faire, de rapprocher le R du A, il rapproche le B du A, et ça finit par faire Banque de France.
Exactement. Non, cela dit, si vous voulez, si ça vous amuse, qu'on parle un peu de fausse monnaie. Maintenant, bon, c'est un art qui est fini. Vous savez, il y a des métiers qui sont foutus. Alors, jusqu'à il y a, disons, une trentaine d'années en arrière, c'était encore un métier possible.
Hein ? Pourquoi ?
Non, vous savez, il y a deux sortes de fausse monnaie. Hein ? Il y a la fausse monnaie mal foutue. Je précise qu'on ne parle jamais que de celle-là. Quand une monnaie est parfaite, parce que ça existe, hein, on n'en parle jamais. La monnaie la plus contrefaite, c'est évidemment le dollar, puisqu'il est universel. On estime, enfin je parle des professionnels, hein, enfin des banquiers, on estime que sur la Terre, actuellement, il y a entre 12 et 15% de faux dollars qui ne sont pas détectables. C'est beaucoup. Et en général, c'est des gouvernements qui les font. Vous savez, avec l'électronique, maintenant, on met ce qu'on appelle dans le métier des pots de banane. C'est-à-dire qu'on peut rendre une encre magnétique, et dans l'encre magnétique, vous enregistrez le premier passage de la cantate 202 de Bach, ou un truc comme ça, et puis alors, ça répond ou ça répond pas. Depuis 30 ans, c'est vraiment un métier foutu qui n'a plus aucun intérêt. Parce que, Actuellement, pour faire un billet de 1000 francs suisses, il faudrait à peu près 100 millions de francs suisses de matériel, au minimum, plus 3 ou 4 ans ou 5 ans de boulot. Alors, si vous avez 100 millions de francs suisses, vous allez les foutre à la banque, à 3%, ça vous fait 200 000 francs suisses à bouffer par mois. Pourquoi faire ça? Ça devient bête, vous comprenez, ça n'a plus aucun intérêt.
La dernière fois que vous en avez fait, vous, de la fausse monnaie, c'était quand?
Moi, avant que je vienne en Suisse. En France. Enfin, il y a 50 ans, quoi.
Des francs ou des dollars à l'époque?
Je dirais pas.
Arsène Lupin, tu es fait!
Arsène Lupin, moi?
Oui! Moi, tu peux rire, cette fois-ci, ça y est.
Mais c'est ridicule. Monsieur est un homme célèbre, une personnalité parisienne, un multimillionnaire.
Oh, vous êtes un vrai.
Mais c'est un vrai policier, monsieur Laroche.
Mon excellent chef, vous n'avez rien compris. Bon, enfin, regardez-le, est-ce que vous voyez bien que c'est un acteur professionnel? Je veux savoir qui a monté ça.
Maurice Leblanc dit qu'il n'a pas du tout été influencé par Conan Doyle, mais qu'il a été influencé par Edgar Poe.
Oui, peut-être est-ce vrai. Peut-être est-ce vrai. En tout cas, il n'a parlé d'Edgar Poe que bien après les débuts d'Arsène Lupin. À l'époque, les contes d'Edgar Poe apparaissaient comme le prototype du roman d'aventure et du roman d'énigme. Hein, double assassinat dans la rue Morgue. Et Maurice Leblanc, c'est vrai par la suite, mais pas dans les tout premiers Lupins, fait assez souvent référence à Edgar Poe. On peut faire un rapprochement aussi entre le chevalier Dupin, le héros d'Edgar Poe, et le nom d'Arsène Lupin. Peut-être, par exemple, dans le roman Le Bouchon de Cristal, Maurice Leblanc rappelle l'épisode de la lettre volée, hein, qui est la lettre que personne ne retrouvait parce que justement, elle était bien en évidence. De la même manière, dans Le Bouchon de Cristal, personne ne songe que le bouchon qu'on recherche puisse être caché dans un paquet de tabac gris qui figure sur une table au vu et au su de tout le monde.
Il y a tout le mystère Jacob qui est très proche du mystère Lupin. Vous avez, par exemple, l'usage des codes, des messages codés. La correspondance de Jacob à sa mère utilise des codes dont l'origine, c'est le mot portugais. Parce que chaque lettre est différente. Vous les retournez, il suffit de prévenir. Enfin, je vais vous expliquer parce que c'est consulter votre agent secret favori. Bon, mais Lupin utilise ce genre de procédé. Il y a les déguisements. Lupin se déguise tout le temps, il change de personnage. Or, parmi les premiers achats de Jacob lorsqu'il devient vraiment professionnel, il y a un achat de friperie, de façon à pouvoir se déguiser en colonel de hussards, en curé, en ouvrier, en maçon, etc., avec les papiers d'identité qui vont en même temps. Vous avez également la bande. La bande de Lupin est infinie. Il y a des ramifications partout, des gens dont on ne sait pas d'où ils viennent, qui l'aident et qui l'aiment surtout. Alors, ce qu'on disait de la bande d'Abbeville, des travailleurs de la nuit de notre Jacob, c'est qu'ils étaient 40, mais que les ramifications étaient immenses à travers l'Europe. On ne savait pas jusqu'où ça allait. Vous avez le raffinement de la technologie. Lupin cambriole d'une manière absolument inouïe, fantasmatique. Enfin, c'est absolument prodigieux. Jacob, c'est beaucoup plus concret, naturellement, parce que c'est du vrai, c'est dans le vrai. Mais tout de même, l'instrumentation qu'il a mise au point pour percer les coffres-forts, ce sont des instruments de chirurgie. Tous les policiers étaient absolument ahuris. Vous avez quoi d'autre? Vous avez l'utilisation qui peut paraître toute bête maintenant de l'indicateur des chemins de fer, c'est-à-dire des horaires des trains. C'est une idée de génie. On est en 1900 au début des chemins de fer et qui avait eu avant lui l'idée de se servir des horaires pour être, à Abbeville le matin et le soir même à Rodez? Personne n'y pensait. Les gendarmes, qu'est-ce qu'ils avaient à leur disposition? Ils n'avaient pas le téléphone comme maintenant, ni le fax, ils n'avaient rien du tout. Donc le gendarme de Rodez qui venait d'avoir un cambriolage sur lui ne pouvait pas soupçonner que c'était le même qui, etc. Donc personne ne s'y retrouvait.
Il y a autre chose aussi, il y a l'habitude qu'ont les deux bandes de communiquer par la presse.
Oui, c'est même plus beau. C'est que Jacob a été créateur de trois journaux. Le premier, qui est un journal anarchiste en 1880 à peu près, qui est une petite feuille, je ne sais plus comment ça s'appelait, à Marseille, enfin toute petite. Le deuxième, qui est quand même assez rigolo, c'est lui qui a créé... Les copains anarchistes sont tristes, mais enfin, c'est quand même avec son fric qu'a été acheté le terrain de la rue d'Orcel sur lequel a été bâti l'imprimerie du Monde Libertaire, de ce qui est devenu le Monde Libertaire depuis. Remarquez, c'est plutôt rigolo, hein. Et puis après ça, quand il y a eu son procès, la bande est venue à Amiens pour assister à son procès, pour créer un journal qui s'est appelé Germinal. Alors, un journal qui a absolument terrifié la police et la justice, parce qu'on se demandait ce qui se trafiquait là-dedans. Il y avait des messages codés, et il donnait, en effet, il livrait ses ordres par l'intermédiaire du journal.
Décririez-vous aujourd'hui?
Je pourrais vous faire la réponse que faisait Maurice Leblanc dans une des aventures d'Arsène Lupin, où il dit « Comment pourrais-je décrire Arsène Lupin? Chaque fois que je l'ai vu, c'est un homme nouveau qui m'est apparu. » Un homme nouveau par son aspect, puisqu'il avait l'art du déguisement. Alors là aussi, on trouve dans ces aventures d'Arsène Lupin les reflets de l'époque. Les artistes à transformation, comme Frégoli, étaient très à la mode. Ces artistes qui, au cours d'un seul spectacle, changeaient 20 fois de tête. C'était quelque chose d'à la mode. Mais surtout, Arsène Lupin a changé parce que la mentalité de Maurice Leblanc lui-même a changé. Il y a eu une évolution considérable, qui est l'évolution de Maurice Leblanc, mais qui est celle aussi de beaucoup d'écrivains qui furent ses contemporains. Beaucoup d'écrivains, comme Maurice Leblanc, ont été dans les années 1890 des sympathisants anarchistes. Barrès avait des sympathies pour les anarchistes. Barrès, on sait ce qu'il est devenu à la veille de la Première Guerre mondiale, patriote, cocardier, etc. Maurice Leblanc a connu la même évolution. Ce qui explique que le Lupin des années 1911-1912, des années qui précèdent la Première Guerre mondiale, soit devenu quelqu'un de plus inquiétant que le premier Lupin, beaucoup moins anarchiste et beaucoup plus patriote, en fait. Et dans les romans publiés pendant la guerre de 14-18, Arsène Lupin met tous ses talents au service, en fait, de son pays, la France. Et le Lupin d'après-guerre, Maurice Leblanc l'a écrit lui-même, devient finalement un monsieur qui a surtout le souci de défendre contre l'injustice les malheureux. Dans le recueil Les 8 coups de l'horloge, c'est très net. Il se fait le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il ne commet quasiment plus de cambriolage. Dans le très beau roman La demoiselle aux yeux verts, Lupin est quelqu'un qui résout une énigme qui va permettre à Aurélie de retrouver sa jeunesse, en fait. De même, dans le roman La Bariva, toute l'enquête menée par Lupin consiste à venir en aide à une malheureuse jeune fille qu'on voulait spolier de son héritage.
Et puisque vous refusez de me comprendre à demi-mot, j'ajouterai qu'Arsène Lupin a trouvé ici, pour l'accomplissement de ses projets, une amie, plus qu'une amie. Une complice aveugle et passionnément dévouée. Elle réfléchit, maîtresse d'elle-même maintenant, et fort calme, il demanda « Vous êtes Herlock Sholmès, n'est-ce pas ?»«
Oui. »
Et même songeait l'anglais, se croit-elle en danger ? Mais non, puisque Lupin la protège. Avec Lupin, rien ne peut vous atteindre. Lupin est tout-puissant, Lupin est infaillible. Comme vous êtes sûr de lui, dit Sholmès. Aveuglément. Tout ce qu'il fait est bien, n'est-ce pas? Tout ce qu'il veut se réalise. Et vous approuvez tout et vous êtes prête à tout pour lui. Je l'aime, dit-elle, frissonnante de passion.
Moi, je fais la distinction entre les actes et l'homme parce que, bon, les actes sont répréhensibles. Et puis, ma foi, bon, c'est vrai, c'est... Je les condamne aussi parce que... Et en même temps, je me dis que s'il a tort du point de vue légal, il n'a pas forcément tort du point de vue moral, quoi. Il a toujours été très correct, même dans sa façon d'agir. Et je me souviens d'une anecdote que j'ai apprise. Suite à son arrestation, il était rentré dans une banque. Et il y avait une petite grand-mère qui avait retiré 2000 francs. Et lorsqu'il a braqué la caissière, la petite grand-mère a voulu lui donner ses 2000 francs. Il a dit non, madame, c'est à vous, cet argent est à vous. Je ne prends pas votre argent.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'il n'a jamais tué ni blessé personne.
Non. Ça fait partie du personnage. Moi, c'est quelque chose que j'aurais pas pu accepter.
La morale d'Arsène Lupin, en fait, elle pourrait sembler inexistante puisqu'il se moque des lois, mais en réalité, la morale d'Arsène Lupin, elle est très forte et elle ressemble à la morale de tout le monde. Même dans les premiers récits, dans l'une des nouvelles du recueil Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, il est vraiment cambrioleur à ce moment-là, mais lorsqu'il est surpris par Miss Nelly en train de mettre dans sa poche des choses qui ne lui appartiennent pas, il se met à rougir. Et il le restitue ça le lendemain parce que pour lui c'est très mal ce qu'il avait fait. Donc il avait un sens de la morale tout de même, un sens de la morale qui lui faisait évidemment voler ceux qui étaient riches. Et de ce point de vue-là, bien souvent, les gens qui sont victimes d'Arsène Lupin sont déplaisants, hein, comme le baron Cahorn. Ils ont d'ailleurs, ces gens déplaisants qui sont victimes d'Arsène Lupin, des noms aux consonances israélites, parce qu'il y avait à l'époque un certain antisémitisme qui transparaît dans les premières aventures d'Arsène Lupin.
Je l'ai beaucoup connu. C'était pas un méchant homme. Je n'irai pas jusqu'à l'égaler aux sept sages de la Grèce, ni même à le proposer comme exemple aux générations futures, mais cependant il faut le juger avec une certaine indulgence. Il fut excessif dans le bien et mesuré dans le mal. Ceux qui souffrirent par lui méritaient leur peine, et le destin les eût châtiés un jour ou l'autre s'ils n'avaient eu la précaution de prendre les devants. Entre un Lupin qui choisissait ses victimes dans la tourbe des mauvais riches et tel grand financier qui dévalise et jette dans la misère la foule des petites gens, tout l'avantage ne revient-il pas à Lupin? Et d'autre part, quelle abondance de bonnes actions, quelle preuve de générosité et de désintéressement! Cambrioleur? Je l'avoue. Escroc? Je ne le nie pas, il fut tout cela, mais il fut bien autre chose que cela. Et s'il amusa la galerie par son adresse et son ingéniosité, c'est par les autres choses qu'il la passionna. On riait de ses bons tours, mais on s'enthousiasmait pour son courage, pour son audace, son esprit d'aventure, son mépris du danger, son sang-froid, sa clairvoyance, sa bonne humeur, le gaspillage prodigieux de son énergie, toutes qualités qui brillèrent à une époque où précisément s'exaltaient les vertus les plus actives de notre race, l'époque héroïque de l'automobile et de l'aéroplane, l'époque qui précéda la Grande Guerre.
La légalité, il s'en moque. L'honorabilité, il la ridiculise. Le sérieux, il l'ignore, comme la prudence. Et pourtant, à sa manière, c'est un homme de devoir et de vertu.
Oui.
Vous êtes bien semblable à ça.
Assez, oui. Ça peut faire rigoler, mais j'ai un grand sens du devoir et de la vertu, justement. D'une certaine devoir et d'une certaine vertu. Hein, pour les valeurs bourgeoises.
Alors, dites-moi.
Ne jamais trahir quelqu'un, la fidélité... La compassion, enfin, être capable de comprendre les autres. Il y a des choses qui ne se font pas. Hein, un pickpocket ne vole pas son porte-monnaie à un aveugle. Ça ne se fait pas. Par exemple, avec la fausse monnaie, je n'ai jamais trompé quelqu'un. J'ai trompé des institutions. Quand je faisais de la fausse monnaie, je l'ai portée à la banque. Je ne payais pas avec.
Une des autres caractéristiques de Lupin, c'est qu'il porte, il aide... d'une certaine manière, la veuve et l'orphelin. Est-ce que ça a été, vous aussi, une...
J'ai aidé beaucoup de gens. J'ai donné beaucoup d'argent. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais j'ai donné aussi beaucoup d'argent. Et j'ai aussi des remords de ne l'avoir pas fait quand j'aurais pu le faire, aussi. Vous savez, il y a les deux. J'ai fait les deux.
«
Sa première qualité lupinienne, c'est évident, évidemment d'être un bandit élégant, je dirais. Sa deuxième qualité lupinienne, c'est quand même une espèce de tendance systématique à l'évasion. Et alors, vous avez participé à 3 tentatives d'évasion. Est-ce que vous pourriez me les raconter un peu ?
Lorsque je suis allée voir Patrick pour la première fois, au bout de plusieurs mois, puisque le permis de visite est délivré vraiment difficilement, j'ai petit à petit appris ce que c'était le monde carcéral et toutes les lacunes, les failles dans la justice. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'on puisse accuser quelqu'un qui, la première fois, n'avait pas commis ces actes-là. Et petit à petit, on a mis en place cette évasion. Et ma foi, bon, il y avait les sentiments, il y avait cette force qui me poussait à faire quelque chose, il y avait cet amour-là qui était bien présent. Et ma foi, j'y suis allée. Je me suis dit, ok, je fais quelque chose, dis-moi ce que je peux faire.
Et vous avez fait quoi ?
La première fois, j'ai placé des armes sous un banc de palais de justice. Et j'ai eu beaucoup de mal à le réaliser. Je me voyais... J'étais spectatrice un petit peu de mes actes et je l'ai fait. Je l'ai fait et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il n'était pas présent le jour de l'instruction. Il n'est pas venu à cette instruction. Et donc ça n'a pas marché. Et moi, je me suis fait avoir lorsque je suis revenue chercher ces armes parce qu'évidemment, j'en avais pas d'autres. Et j'étais condamnée. Et je suis sortie au bout de 7 mois.
Et la deuxième tentative ?
La deuxième tentative, c'était à Rennes. Donc moi, j'étais sortie depuis peu de Laval, où j'étais incarcérée, et j'avais redemandé un permis de visite. Il était difficile de correspondre par courrier. Le courrier était lu, était censuré, mettait X temps à venir de l'un à l'autre. Et encore une fois, notre seul but, c'était d'être ensemble. Là, ma participation était moindre, puisque je n'ai pas eu à fournir les armes. Ce qui était prévu, c'était une évasion à l'explosif, c'est-à-dire qu'un Corse qui était copain de circonstance, Patrick, qui était à l'intérieur aussi, a fait venir des explosifs. Donc moi, mon rôle consistait à l'attendre à l'extérieur, à fournir des véhicules, un itinéraire de repli.
Et ça s'est passé comment ?
Disons que j'ai entendu depuis là où je l'attendais, peut-être à 500 mètres de là, j'étais dans un lavomatique, et j'ai entendu les détonations, et il y en a eu 4, et il est sorti, et il a pu me retrouver. On est parti dans un itinéraire de repli que j'avais trouvé. C'était un petit parc avec un étang, c'était en plein mois d'août, donc c'était un peu touristique, donc c'était une cache idéale, du moins dans un laps de temps très court.
Et là, la cavale a duré combien de temps ?
La cavale a duré 6 mois.
Il a été repris comment ?
Sur un braquage.
Et il y a une troisième tentative ?
Et là, une troisième et dernière tentative qui a eu lieu à Moulins. Et que là, il fallait faire très vite parce qu'il était transféré tous les 2, 3, 4 mois, justement pour éviter les évasions. Et lorsqu'il est arrivé à Moulins, il a fallu faire très vite pour monter un plan. Et ben ce plan, c'était de nouveau avec les détonateurs et les explosifs. Et de faire sauter les portes et de sortir. Et malheureusement, donc il y a eu 2 portes qui ont réussi à sauter. Et puis, en arrivant à la troisième, on a vu à travers un hublot qu'il y avait des gendarmes derrière une table cachée avec un revolver pointé sur nous. Donc on a compris que il n'y avait pas d'issue possible. Notre seule pensée à ce moment-là, c'est de nous rétracter, de rester ensemble. Une prise d'otage a commencé là, avec des détenus qui attendaient le parloir suivant et donc les gardiens qui étaient présents. Et cette prise d'otage a duré 22 heures. C'était quelque chose qu'on ne vivait pas comme quelque chose de méchant, d'agressif, quoi. Notre but était d'être ensemble. Donc, au bout des 22 heures, on a dû se rendre.
L'un des premières scènes Lupin, c'est l'évasion d'Arsène Lupin. Il y a une évasion de Jacob qui est absolument magnifique. Et quand il est jeune, il se fait passer pour fou. Il y a des hordes de jésuites qui sont partout. On le met chez les fous, donc à l'asile du Mont-Péril, pas loin de Marseille. Et puis alors là, on le met dans une cellule isolée, c'est tout ce qu'il voulait. Il réussit à faire copain avec un gardien. qui est en fait un anarchiste clandestin qui n'a pas manifesté. Et puis un beau jour, il y a l'évasion, une évasion absolument, qui est du pur Arsène Lupin, à laquelle participent papa et maman. Papa qui est un vieil alcoolique qu'on a traîné quand même, et maman l'épicière qui veut qu'on lui rende la liberté à son fils qui est innocent. On lui fait descendre une échelle de corde par une verrière qui est tout à fait au sommet. Et puis pendant ce temps-là, les autres gardiens s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose, ils entendent du bruit. Et Jacob crie, bon, passe-moi le revolver. Il n'y a pas de revolver du tout. Bon, ça y est, je l'ai. Ne bougez pas. Bon, tout le monde est paralysé, s'imagine qu'il va tuer. Il n'y a pas de revolver, il n'y a rien du tout. Il grimpe l'échelle de corde et il fiche le camp. Voilà. Bon, nous sommes en plein dans le personnage.
Maurice Leblanc disait que les deux de ses livres qu'il préférait étaient L'Aiguille Creuse, donc qui se passe ici, et L'Agence Barnett. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez vous-même ?
Ah, ce sont deux œuvres très réussies, très différentes, puisque, en fait, L'Aiguille Creuse, c'est un roman, et L'Agence Barnett et compagnie, c'est un recueil de nouvelles. Mais c'est un recueil de nouvelles que j'aime beaucoup, parce que Maurice Leblanc, il fait preuve de beaucoup d'humour. Alors, il y a toute une histoire pour L'Agence Barnett, c'est qu'en réalité, lorsque Maurice Leblanc a d'abord écrit Les Aventures de Barnett, dans son esprit, Barnett n'avait rien à voir avec Arsène Lupin. Mais comme Lupin se vendait bien, et surtout que Lupin était protéiforme et que finalement il pouvait revêtir toutes les identités, et finalement, si les nouvelles de L'Agence Barnett ont paru dans Lecture pour tous comme une création nouvelle de l'auteur d'Arsène Lupin, lorsque le volume est paru, eh bien, on a fait de Jim Barnett un avatar d'Arsène Lupin.
On a un peu le sentiment que toutes les fois qu'il a tenté d'échapper à Arsène Lupin, il a été rattrapé à la fois par la logique de l'édition, mais aussi par le public revoulait de l'Arsène Lupin et ne voulait pas autre chose.
Et c'est vrai que ça lui est arrivé avec très très souvent. Disons qu'il a d'abord conçu une certaine amertume d'être considéré comme un écrivain populaire. Il aurait voulu sans doute être considéré comme un écrivain psychologue digne d'entrer à l'académie, etc. Enfin, dans son esprit, et vu le milieu qu'il a fréquenté avant Arsène Lupin, pour lui, écrire Les Aventures d'Arsène Lupin et se voir publié dans des collections populaires à 90 centimes, c'était un peu déchoir, incontestablement. Et après la Grande Guerre, lorsqu'il s'est enfin résolu à être devenu un romancier populaire, il s'est dit, pour que mon Arsène Lupin me fasse moins d'ombre, je vais essayer de créer d'autres types. Et il a essayé, en effet, avec Dorothée, avec beaucoup d'autres personnages. Et c'est vrai qu'il n'a pas vraiment réussi à imposer d'autres types, comme Arsène Lupin avait réussi à s'imposer. Et pourquoi ? Bah, les autres personnages qu'il a voulu créer sont apparus comme des visages différents d'Arsène Lupin, puisque Arsène Lupin, justement, avait cette caractéristique de pouvoir avoir 1000 visages. Et Dorothée ne peut pas être prise pour Arsène Lupin parce que c'est une jeune fille. Mais en réalité, toutes les qualités dont elle fait preuve, c'est les qualités d'Arsène Lupin.
Pour s'en débarrasser, il aurait pu, au lieu de le mettre à la fin des Dents du Tigre, à la retraite dans le Clos Lupin, il aurait pu le faire mourir.
Il aurait pu le faire mourir, ce qui est le cas à la fin de 813, d'ailleurs, puisque à la fin de 813, Arsène Lupin se jette du haut des rochers de Capri, et il a sûrement eu souvent la tentation de le faire mourir. Manifestement, quand on lit la fin de L'Aiguille Creuse, c'était dans l'esprit de Maurice Leblanc, la dernière aventure d'Arsène Lupin. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin de L'Aiguille Creuse ? Sa retraite est découverte par les gendarmes, et Maurice Leblanc l'écrit, c'était ça qui faisait la force d'Arsène Lupin. C'était cette retraite inviolable. Et quand on lit la fin de L'Aiguille Creuse, on voit s'enfoncer dans l'ombre, portant dans les bras le cadavre de celle qu'il aimait. On a tout à fait l'impression que c'est la fin d'Arsène Lupin, et qu'il va se retirer quelque part, et qu'on n'entendra plus parler de lui.
Lieu de mémoire. Arsène Lupin, Jean-Marc Fambonne, Brigitte Bouvier. Avec Laurence Brice, Timur Sergueï Boguslavski, auteur de La Morue de Brixton, publié chez Arléa, Jacques Deroire, responsable de la récente édition des œuvres de Maurice Leblanc dans la collection Le Masque, Bernard Thomas, auteur de Les Vies d'Alexandre Jacob, publié chez Fayard. Les textes de Maurice Leblanc sont lus par Anne Créis, Bruno Argulon de Radio France Rouen, Pierre-Alain Bridel de la Radio Suisse Romande et Sylvie Dezingue de Radio France Belfort ont enregistré. Michel Créis et Andreas Jaffré
ont mixé. Deux ouvrages encore pour les Lupiniens. L'indispensable Arsène Lupin, gentilhomme philosopheur, d'André Comte Sponville et François Georges, publié aux éditions du Félin, et l'incontournable intégralité des aventures d'Arsène Lupin aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 juillet 1999.